إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons l'explication en langue française du livre intitulé A'lam Sunnati Al-Manshura, le Cheikh Al-Allama Hafir Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Donc la semaine passée, on s'était arrêté à la question numéro 82. On avait commencé la réponse et on ne l'avait pas terminé. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va terminer cette réponse, bi'idhnillah. D'abord, le cheikh, pour comprendre bien la question, le cheikh, dans la question numéro 82, ou dans le numéro 81, c'est la question qui est avant elle, il nous avait demandé quel était le droit du Coran envers cette communauté. C'est-à-dire, quel était le droit qu'avait le Coran envers cette communauté, c'est-à-dire par rapport aux musulmans. Qu'est-ce que le musulman doit faire par rapport à ce livre ? Donc le shir, en fait, il nous avait dit, c'était le fait de le suivre, de manière intérieure et de manière extérieure. وَقَالَ وَالتَّمَسُّكُ بِهِ وَالْقِيَامُ بِحَقِّهِ وَالتَّمَسُّكُ بِهِ وَالْقِيَامُ بِحَقِّهِ. Donc il avait apporté le shir des preuves par rapport à cela, c'est-à-dire le comportement que le musulman a envers le Coran. Donc il avait apporté des preuves par rapport à ces termes-là. Et ensuite, dans la question 82, il va en fait expliquer ces termes. Il va expliquer et principalement ces deux termes qui sont atamassuku bihi wa al-qiyam bihaqqihi. Donc il dit le cheikh, pour reprendre la question, dans la question donc, numéro 82, il y a pour le cheikh rahimahullah ta'ala, ma ma'na atamassuk bil kitabi wal qiyam bihaqqihi, ma ma'na atamassuk bil kitabi wal qiyam bihaqqihi. C'est-à-dire, quelle est la signification de ce terme atamassuk bil kitab wal qiyam bihaqqi? Quelle est la signification, en fait, de ce terme? Donc on avait dit qu'at-tamassouk, au niveau de la langue, on traduisait par le fait de s'accrocher au livre, ou al-qiyam bihaqqi, c'est-à-dire le fait d'accomplir le droit d'accomplir le devoir que l'on a, que chaque musulman doit avoir envers le livre d'Allah azawajal, envers le Coran. Donc on a vu, en fait, que ça, c'était en fait la traduction que l'on donnait. Mais ensuite, le shir, donc, il nous avait détaillé qu'est-ce que veut dire, en fait, ces deux termes. Qu'est-ce que veulent dire ces deux termes? Donc, il nous avait dit, dans un premier temps, pour reprendre là. Donc, on va relire la réponse, inshallah, et ensuite, on va passer à l'explication. فَقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى جَوَابًا عَنَ ذَا السُّؤَالِ حِفْظُهُ وَتِلَاوَتُهُ وَالْقِيَامُ بِهِ آنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْإِنْقِيَادُ لِأَوَامِرِهِ وَالْإِنْزِجَارُ بِزَوَاجِرِهِ وَالْإِعْتِبَارُ بِأَمْثَالِهِ والاتعاب بقصصه والعمل بمحكامه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. Donc en fait, ça, c'était l'explication du cheikh rahimahullah ta'ala. Donc on avait dit le premier point, c'était apprendre le Coran par cœur. Ça, c'est ma'na at-tamassuk bil kitab wal qiyam bi haqqihi. La première chose, c'est apprendre le livre d'Allah azawajal. Et donc, quand on dit apprendre, c'est en fait l'apprendre par cœur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le lire, at-tilawa. C'est donc le lire. Et c'est le lire le plus possible. وَالْقِيَامُ بِهِ آنَا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, c'est-à-dire prier en récitant les versets du Coran aux extrémités de la nuit et du jour, c'est-à-dire à tout moment. وَتَدَبُّرْ آيَاتِهِ, c'est-à-dire contempler, réfléchir sur ces versets. C'est-à-dire, non seulement lorsqu'on apprend le Coran, il faut aussi savoir les significations du Coran, c'est-à-dire se concentrer, réfléchir sur les significations des versets du Coran. Il nous avait dit aussi, le shir rend licite ce qu'il autorise, c'est-à-dire ce qu'Allah Azza wa Jalla rend licite à travers son livre, nous devons l'autoriser, donc le rendre également licite. Et interdire, et donc le contraire de cela, interdire ce qu'il interdit. C'est-à-dire tout ce qu'Allah Azzawajal interdit dans son livre, nous, nous devons aussi l'interdire. Nous devons en interdire sur nous-mêmes et nous devons l'interdire par rapport aux personnes qui sont sous notre responsabilité. Et il a dit aussi au Shia, le Shia, rahimallah, obéir aux ordres qui sont dans ce livre, c'est-à-dire les ordres que contient ce livre. C'est obéir donc aux ordres et repousser, s'écarter de tout ce qui nous avertit de s'en écarter. Et aussi prendre compte et tirer profit des exemples et des récits qui sont présents dans ce livre. C'est-à-dire que le Coran regorge en fait de ce qu'on appelle le qissas, c'est-à-dire des récits, que ce soit des récits des prophètes, des récits des communautés qui nous ont précédés. Et ces récits-là, Allah Azzawajal, lorsqu'il nous les rapporte dans son livre, c'est qu'il y a en fait une hikmah, une sagesse. Et cette sagesse, en fait, d'en tirer profit, de tirer profit de ces récits. Donc ça rentre aussi dans le terme « Atamassuku bil kitabi wal qiyamu bihaqqihi ». Taïb. Ensuite, on s'était arrêté donc à ce point-là. On s'était arrêté à ce point-là le cours dernier. Lorsque le shir nous dit « Wal amalu bimuhkamihi wattaslimu limutashabihi ». Donc on avait dit que la semaine dernière qu'on allait expliquer en fait cette expression. L'expression que nous dit le shir, et en fait qu'est-ce qu'il veut dire à travers en fait ces termes-là. Donc on avait dit de façon générale la semaine dernière qu'en fait dans le livre d'Allah Azzawajal, dans le Coran, il y a en fait deux catégories de versets. Donc le verset que l'on dit muhkam et le verset que l'on dit mutashabi. Donc je fais exprès de ne pas traduire directement des expressions. Pourquoi ? Parce qu'en fait on va maintenant voir en détail qu'est-ce que veut dire en fait ces deux, quelle est la signification de ces deux catégories de versets. Et on va voir également que connaître en fait ces catégories de versets et savoir et comment nous devons comprendre ces catégories de versets et la relation qu'il y a entre eux est une chose très importante. Et on avait dit que c'était une des clés pour comprendre en fait le Coran et pour comprendre de façon plus générale les preuves de la charia, c'est-à-dire les preuves qui sont tirées du Coran et de la Sunna. Et ça va nous permettre également de mettre en évidence et de mettre en valeur le minhaj salaf, c'est-à-dire c'est-à-dire la méthodologie employée par rapport à ces catégories de versets de par les salaf, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, et de façon ou de même des gens de la sunna et du consensus. Donc qu'est-ce que veut dire le terme muhkam et le terme mutashabi? Donc on a dit qu'il y avait deux catégories de versets. Dans un premier temps, il faut savoir que Allah Azzawajal, dans son livre, nous a cité en fait ces deux catégories. C'est-à-dire que ces deux catégories nous sont citées par qui? Par Allah Azzawajal de façon directe dans son livre. C'est en fait la sourate que je vais maintenant vous citer en langue arabe et ensuite on verra la traduction pour en fait comprendre plus qu'est-ce qu'en fait ces catégories de versets. يقول الله عز وجل والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc c'est le verset qui se trouve, c'est le verset numéro 7. Et le verset suivant, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque. Donc eux, ils l'ont traduit par des versets sans équivoque. Et on va voir en fait pourquoi le terme muhkamat, donc al-ayat al-muhkamat, pourquoi en fait ce terme a été traduit ainsi. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Donc ça, c'est la traduction du terme wa ukharu, c'est-à-dire ayatun ukharu, wa ukharu mutashabihat, c'est-à-dire des autres versets qui sont eux, comme c'est la traduction du Coran, qui est traduit par et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque. Donc on va voir à travers ce verset également, mais on va expliquer que ça en fait c'est minhaj al-mubtadira, c'est-à-dire c'est la voie, la méthodologie qui est empruntée par les gens de l'innovation pour comprendre en fait ces catégories de versets. On va expliquer de façon plus détaillée, inshallah, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent Rasikhun, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Voilà donc pour ce qui est de la traduction de ce verset. Donc on voit que Allah Azzawajal nous cite dans ce verset qu'il y a en fait deux sortes, deux catégories de versets. La première catégorie, al-ayat al-muhkamat, al-muhkamat. Et la deuxième catégorie, al-ayat al-mutashabihat. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qu'en fait ces deux catégories en détail. Dans un premier temps, ces deux termes, muhkamat wa mutashabihat ou muhkam wa mutashabi, on va voir en fait que elles ont une signification au niveau du Coran, une signification qui est générale, sur un aspect qui est considéré comme général et global. Yani ma'na al-muhkam wa al-mutashabi bil-ihtibar al-'am al-kulli. Donc ça, c'est une signification de ces termes suivant un aspect qui est considéré comme général et global. Donc le premier verset qui nous indique en fait cette signification, c'est le verset suivant, c'est le verset dans Surat Hud, c'est le premier verset, Surat Hud, Kitabun uhkimat ayatuhu. Kitabun uhkimat ayatuhu. Donc c'est ici on voit en fait que le terme est en temps pluriel, c'est-à-dire le terme uhkimat, c'est-à-dire ayatun uhkimat. Donc on voit que c'est le terme qui est employé et le terme qui vient de muhkam. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quelle est la signification de ce verset? Annahu mutqinun ghayatul itqan fi ahkamihi wa alfadhihi wa ma'anihi. C'est-à-dire que ce sont des versets qui sont parfaits dans leur loi, qui sont parfaits par rapport à leur loi, par rapport à leurs termes, les termes qui sont employés dans ces versets, et par rapport également à leur sens, c'est-à-dire le sens de ces versets. Donc uhkimat ayatuhu, c'est-à-dire cette signification. C'est un livre dont les versets sont parfaits, ont des termes qui sont parfaits quant à leur loi, quant à leurs termes et quant à leur sens. Donc c'est ça la signification en fait de ce terme kitabun uhkimat ayatun. Et on voit en fait que ici dans ce verset là ça concerne tous les versets. Donc on voit en fait que la signification du terme muhkam ou uhkimat ayatun est une en fait signification qui est générale, c'est-à-dire qui concerne tous les versets. Tous les versets du Coran sont parfaits dans leur loi, dans leur sens et dans leur terme. Donc ça c'est la première signification par rapport, on a dit, bil-i'tibar al-'am al-kulli, c'est-à-dire par rapport à leur sens général et global. Ensuite, la deuxième signification du terme, le terme mutashabi de façon générale ici, on va prendre aussi un autre verset pour comprendre, et donc ce verset, c'est, ça se trouve dans les groupes, et c'est le verset numéro 23, le verset numéro 23, kitaban mutashabiha, kitaban mutashabiha. Donc on voit ici, qu'est-ce que veut dire en fait ce verset? أن آياتي يشبه بعضها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل والحسن. C'est-à-dire que maintenant Allah Azza wa Jal il reprend le terme mutashabih, kitaban mutashabih, et donc en fait il qualifie son livre comme tel. Donc quelle est la signification ici? Donc c'est une signification qui va être générale. Ils se ressemblent, c'est-à-dire les versets du Coran, tous les versets du Coran, ils se ressemblent les uns aux autres en ce qui concerne leur perfection. Ils se ressemblent les uns aux autres en ce qui concerne leur perfection, en ce qui concerne ou ce qu'ils comprennent comme miracle, en ce qui concerne leur véracité et en ce qui concerne leur beauté, en ce qui concerne leur beauté. Donc voilà pour ce qui est du terme muhkam et du terme mutashabi de façon générale, c'est-à-dire de manière générale. Et on voit en fait que ces deux termes maintenant vont être utilisés ou vont être utilisés pour désigner tous les versets du Coran, suivant donc la signification que l'on a donnée, qui est une signification qui est suivant un aspect qui est dit général et global. Et donc maintenant on va voir en fait l'aspect qui va être considéré comme plus particulier. L'aspect qui va être considéré, qui est plus particulier, et c'est là en fait qu'il va en fait avoir la différence, ou qu'on va dire que les versets du Coran sont de deux catégories. Et on va voir donc comment, par la suite, on va voir comment les gens de la Sunna et du consensus, en fait, ont la méthodologie utilisée pour comprendre en fait et pour utiliser ces deux types ou ces deux catégories de versets. Et on verra aussi la méthodologie des gens de l'innovation en donnant des exemples, comment eux en fait ils prennent comme méthodologie, quelle est leur méthodologie dans ce qui est de l'utilisation de ces deux types de versets. Donc al-murkam, maintenant on va voir al-murkam. Donc maintenant c'est bil-i'tibar al-khas nisbi, c'est-à-dire suivant un aspect particulier et relatif. Et c'est là en fait qu'il va avoir donc la division des versets du Coran en deux catégories. Et c'est donc ici donc la signification du premier verset qu'on a cité, du premier verset que l'on a cité au tout début, qui nous prouvait en fait la al-wujud, c'est-à-dire qui nous prouvait qu'il y avait deux sortes de catégories, ou deux sortes de versets. Donc al-muhkam, qu'est-ce qu'al-muhkam? Al-muhtar, anna al-muhkam, ou al-muttabih al-ma'na. Al-muqarrir l'usul al-din wa qawa'idi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc parmi les pieux prédécesseurs, il y a eu certaines divergences au niveau de l'explication du terme al-muhkam ou al-ayatul muhkamat, donc les versets qui sont dits muhkam. Il y a eu de petites divergences mais qui n'ont pas d'influence, qui reviennent tous en fait à la même signification. Et c'est pour ça que les savants disent de façon générale le terme al-muhkam est ce qui est évident et très clair quant à son sens. C'est-à-dire le verset qui est évident et très clair quant à son sens et qui comprend des bases de la religion et de ses règles, ou qui établit des bases de la religion et les règles de la religion. Donc ça c'est ma'na al-muhkam. Ça c'est la signification du terme ou de cette catégorie de versets que l'on dit al-muhkamat ou al-muhkam. C'est ce qui est évident et très clair quant à son sens et qui comprend des bases ou qui pose et établit des bases de la religion et les règles de la religion. Donc ça c'est al-muhkam. Ça c'est la première catégorie des versets du Coran. Ensuite la deuxième catégorie, al-mutashabih. Et donc quelle est la signification du terme al-mutashabih par rapport à la signification ou par rapport à un aspect qui est particulier relatif comme on a dit? والمحتمل المعنيين احدهما صحيح يوافق المحكم يوافق المحكم والثاني فاسد يناقضه فاسد يناقضه. C'est-à-dire que maintenant معنى المتشابه c'est celui qui tend à être compris suivant deux sens différents. C'est le verset qui tend à être compris suivant deux sens différents. C'est-à-dire qu'au moment où on va lire ce verset, il va en fait, on peut comprendre de ce verset deux sens. On peut comprendre deux sens. Maintenant, les deux sens qui vont être compris. Le premier sens est celui qui va être en fait en accord avec le muhkam, qui va être en accord avec le verset qui est dit, comme il est traduit, le verset qui est dit clair, qui est dit évident et très clair quant à son sens. Donc c'est celui qui est en accord avec le verset qui est dit muhkam. Ça, c'est le premier sens. Et le deuxième sens, c'est celui qui est non valable et qui contredit en fait le verset qui est dit muhkam. Donc on voit que c'est une sorte de verset qui tend à être compris suivant deux sens différents. Un premier sens qui va être en fait en accord avec le muhkam, et c'est comme cela qu'il faut que l'on comprenne. Et ensuite, le deuxième sens est celui qui est non valable et qui contredit al-muhkam, qui contredit en fait le verset qui est clair, les versets qui sont la catégorie de versets qui sont clairs. Donc voilà pour ce qui est de la définition de ces deux catégories et pour ce qui est de la signification même de ces deux catégories. Et donc par rapport à ça, lorsque maintenant on a compris la différence entre ces deux sortes de versets, comment on doit en fait c'est-à-dire comment on doit agir par rapport à comment on doit comprendre ces deux sortes de versets. Donc en fait, tariqatu salaf, tariqatu ahli sunnati wal jama'a, c'est-à-dire la méthodologie et la voie des gens, des plus prédécesseurs et des gens de la sunna et du consensus, par rapport à ces deux sortes de versets, c'est radd al-mutashabih ila al-muhkam. رد المتشابه إلى المحكم. C'est ça en fait la méthodologie des gens de la sunna et du consensus. Ça c'est la méthodologie des gens de la sunna et du consensus. رد المتشابه إلى المحكم. C'est-à-dire ramener le verset qui est du mutashabih, qui comprend en fait deux sens différents, qui peut être compris de deux sens différents, il faut le ramener à quoi? La signification du verset qui va être clair. Du verset qui va être clair. Donc c'est maintenant, on comprend en fait, lorsque on a expliqué par rapport à le mutashabih, on a dit qu'il y avait deux sens, un premier qui va être en accord avec le muqam et le deuxième qui va être en accord avec, ou qui va être en désaccord avec le verset qui est dit être muhkam. Donc en fait, à partir de là, on va comprendre la méthodologie des gens de la sunna du consensus par rapport à ces deux sortes, par rapport à ces deux sortes de versets, ou ces deux catégories de versets. On va prendre un exemple par rapport à ce qu'on a dit. On va prendre un exemple, un seul exemple, parce qu'on ne peut pas trop s'attarder sur cette question. On va prendre, Inch'Allah, un seul exemple. Maintenant, la deuxième méthodologie, on a vu ça, c'est la méthodologie des pieux prédécesseurs, la méthodologie des gens de la sunna et du consensus. Donc maintenant, la deuxième méthodologie, c'est la méthodologie de qui? Tariqatu al-mubtadi'a, minhaj al-mubtadi'a, c'est-à-dire la voie des innovateurs. Ça, c'est la voie des innovateurs. Comment eux, les innovateurs, ils agissent et comment eux, ils comprennent en fait ces deux sortes, ces deux catégories de versets. Eux en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le verset qui peut être compris suivant deux sens différents, comme on a dit, al-mutashabi, et en fait, ils prennent de ce verset le verset en fait, ou la signification qui contredit le verset clair et évident, al-muhkam. Donc ça en fait, ça c'est leur minhaj. Et en fait, maintenant, si on revient au verset qu'on a cité en début du cours, en début de cette question-là, si on revient maintenant, on va voir en fait que c'est expliqué, que Allah Azzawajal nous explique qui sont ces gens. Lorsqu'il dit les gens donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, donc ça c'est les gens de l'innovation. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرٌ. Zayr qui est en fait l'inclinaison vers l'égarement, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Non. Mettre l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. En essayant de leur trouver une interprétation. Et donc, l'interprétation qu'ils vont prendre, c'est l'interprétation qui va être en fait en contradiction avec les versets qui sont dits muhkam, c'est-à-dire les versets clairs et évidents du Coran. Et par là, en fait, ils vont chercher donc la dissension, c'est-à-dire ils vont chercher à diviser les gens, et par là, ils vont chercher donc à mettre l'accent sur ce qui n'est pas valable, sur ce qui n'est pas valable. Et donc ça, c'est la méthodologie des gens de l'innovation. L'exemple qu'on va prendre, Allah Azza wa Jal, dans un des versets du Coran, nous dit, يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدان فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Donc ça, le verset suivant, dont l'essence de ce verset a été traduit de la façon suivante, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement, Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Ça, c'est en fait des versets, c'est une sorte de verset qui rentre en fait dans la catégorie, dans la deuxième catégorie, qui sont les versets qui peuvent être compris en fait suivant deux significations, qui peuvent être compris suivant deux significations. Donc là, quels vont être en fait ces deux sens que l'on peut comprendre du verset? Le premier sens que l'on peut comprendre, et ça en fait, on va retarder cette explication, on va prendre directement le deuxième sens, en fait, c'est-à-dire le sens qui va aller en encontre du verset Al-Murkam. On va citer en fait le verset qui est dit Murkam, qui dit clair et évident, et qui en fait, yubayyin, c'est-à-dire qui met en évidence la signification de ce verset. On peut comprendre qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous dit « Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. » C'est-à-dire la personne, qu'elle soit musulmane ou croyante, qui tue une autre personne, c'est-à-dire qui tue intentionnellement un croyant. Sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Qu'est-ce qu'on va comprendre donc? On peut comprendre de ce verset que la personne donc, qui va tuer un croyant, va rentrer en enfer et va y demeurer éternellement, comme il nous est dit dans ce verset. Donc ça c'est clair. mais ce que l'on peut comprendre, c'est que cette personne en fait va en fait sortir de l'islam et va devenir un mécréant. Pourquoi? Parce que personne de parmi les croyants ne va rester éternellement dans l'enfer. Personne de parmi les croyants ne va rester éternellement dans l'enfer. Alors que ici, Allah Azza wa Jalla nous cite que cette personne-là va rester pour y demeurer éternellement. فَجَزَاهُ جَهَنَّمْ خَالِدَانَ فِيهَا. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit, lui a préparé un énorme châtiment. Donc ça en fait c'est la signification que l'on peut comprendre, ou le sens que l'on peut comprendre. Et de par là on peut comprendre donc que la personne, le fait de tuer une personne, بِتِّفَقْ الْعُلَمَا بِتِّفَقْ بِيْجْمَعَ الْعُلَمَا, le fait de tuer une autre personne, le fait que le musulman tue une autre personne, n'est pas en soi une action d'apostasie, c'est-à-dire une action qui fait sortir de l'islam. Une action qui fait sortir de l'islam. Mais par rapport à ça maintenant, qu'est-ce que l'on peut comprendre? On peut comprendre que la personne qui va tuer cette personne, elle va commettre en fait un acte, elle va commettre un acte d'apostasie. Et que cet acte-là, il va être considéré comme minal kabaïr, il est considéré minal kabaïr, c'est-à-dire des grands péchés, il fait partie des grands péchés. Et donc, le fait que cette personne qui a commis un grand péché va demeurer en enfer éternellement, qu'est-ce qu'il advient? Il advient en fait comme règle ici, que les gens qui commettent des grands péchés sont en fait des mécréants et rentrent dans le feu. Et c'est comme ça en fait, et c'est en fait cela la croyance de qui? C'est la croyance en fait des Khawarij. C'est la croyance des Khawarij. Donc eux qui disent que celui qui commet un grand péché est un mécréant et il rentre dans l'enfer éternellement. Et ils prennent comme preuve ce verset. Ce verset qui est, comme on dit, mutashabi. C'est un verset qui est considéré comme mutashabi. Donc ils prennent ce verset et ils l'expliquent donc à leur manière. C'est-à-dire qu'ils prennent le deuxième sens qui n'est pas valable, qu'on va le voir, avec le sens du verset qui est dit muhkam. Maintenant, donc, on va prendre al-muhkam. On va prendre en fait le deuxième verset et ensuite on va donc pouvoir comprendre par rapport à ça la première signification de ce verset. Le verset qui est dit muhkam par rapport à cette question-là, c'est le verset suivant. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. C'est-à-dire, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Donc par rapport à ce verset qui est clair et qui ne comprend en fait pas de signification et qui ne tend pas à que l'on comprenne de ce verset de signification. C'est un verset qui est clair et évident. Ce verset nous dit que celui qui ne commet pas du shirk, c'est-à-dire de l'associationnisme, du polythéisme, alors celui qui ne commet pas cela, Allah Azza wa Jal va lui pardonner. Pourquoi? Parce qu'il pardonne à qui il veut. Par contre, la personne qui commet de l'associationnisme, qui commet du polythéisme, alors cette personne, Allah Azza wa Jalla, ne lui pardonnera pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est tout ce qui n'est pas du polythéisme, Allah Azza wa Jalla le pardonne à qui il veut. Donc ça, c'est un verset qui est dit muhkam. C'est un verset clair et évident, un verset qui est dit muhkam. Maintenant, si on revient au premier verset, on voit en fait que le fait de tuer un croyant n'est pas un acte de polythéisme. Bittifak, c'est-à-dire ce n'est pas un acte de polythéisme. Donc maintenant, par rapport, maintenant qui va être la première signification, on va comprendre en fait de ce verset que celui qui tue une personne qui est croyante, il va être en fait sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla. S'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il ne lui pardonne pas. Pourquoi? Il y en a murtakib al-kaba'ir. Et comment les gens de la Sunna ont compris ce verset et comment ils ont appliqué ce verset? Simplement comme il est de leur méthode, Raddul Mutashabi ila al-Muhkam, c'est-à-dire renvoyer le verset qui est dit Mutashabi, qui comprend en fait deux significations, au Muhkam, le verset qui est clair et évident. Donc c'est ce qu'ils ont fait ici pour comprendre en fait le verset. Et donc la deuxième signification, le fait de dire comme eux, ils ont pris la deuxième signification qui va à l'encontre du verset que l'on a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. La deuxième signification était donc de dire que la personne qui tue un croyant va être donc dans le feu éternellement. Et celui qui est dans le feu éternellement ne peut être qu'un mécréant. Donc le fait que l'on tue un croyant, c'est un acte qui n'est pas considéré comme polythéisme, qui n'est pas considéré comme polythéisme. Donc par rapport à ça, on comprend en fait qu'une personne qui commet un grand péché, et donc le fait de tuer un croyant, ça fait partie des grands péchés, va être en fait un kafir, c'est-à-dire va être un mécréant. Et donc ça, on a dit que ça, c'était la croyance des gens, ou la croyance de ces sectes que l'on dit al-khawarij, de cette secte que l'on dit al-khawarij. Donc c'est eux, ils ont compris par rapport à ça, ils ont compris par rapport à ce verset, la deuxième signification qui allait en l'encontre du deuxième verset qu'on a cité, Inna Allah la yaghfiru an yushraka, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc eux, ils ont contredit en fait ce verset en allant avec ou en prenant la deuxième signification. Donc en fait, ça, c'est un exemple de la règle que l'on a dit auparavant. Et ils utilisent aussi, ça c'est valable pour les versets, ils utilisent aussi des hadiths. Par exemple, ils prennent le hadith ma'ruf de Abu Huraira, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن الى اخره. وهذا حديث متفق عليه, c'est-à-dire rapporté par l'imam Muslim et l'imam al-Bukhari, c'est-à-dire que لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, c'est-à-dire que la personne qui commet le zina, c'est-à-dire qui commet l'adultère, au moment où il commet l'adultère n'est pas un croyant. Au moment où il commet l'adultère, il n'est pas un croyant. Donc, par rapport à ça, au moment où il va commettre l'adultère, il n'est pas un croyant. Qu'est-ce qu'on va comprendre de ce hadith ? On va comprendre, on peut comprendre deux choses. On peut comprendre soit que, comme ont compris les gens de la sunna et du consensus, la foi c'est comme si en fait elle se retirait d'elle et puis elle revient à lui. Ça c'est une des significations qui est donnée pour ce hadith. Il y a d'autres significations des gens de la sunna et du consensus. Ou comprendre ce hadith comme l'ont compris Al-Khawarij, comme l'ont compris qui Al-Khawarij, lorsqu'ils ont dit qu'en fait ça c'était une preuve pour dire que Al-Zina, ça fait partie du Kabayr, comme Qatl al-Nafs, c'est-à-dire le fait de tuer le croyant, ou de tuer une autre personne dont l'âme est interdite. Donc le Zina c'est pareil, ça fait partie de la même catégorie, ça fait partie des grands péchés, et ça ne fait pas partie de l'associationnisme. Donc ils prennent ce hadith pour dire en fait que celui qui crée ou qui fait un grand péché est un mécréant, c'est-à-dire est un mécréant et il sort de l'islam. Comme on pourrait le comprendre, je dis bien comme on pourrait le comprendre de ce hadith et comme on aurait pu le comprendre du verset. Non seulement il y avait deux significations, et la première signification c'est celle qu'ont pris les gens de la sunna et du consensus et qui l'ont ramené au verset qui est dit muhkam, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Azzawajal ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire celui qui fait kaba'ir, celui qui fait des grands péchés, il va être sous la volonté d'Allah Azzawajal. S'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il ne lui pardonne pas. Et ça, c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus pour ce qui est de cette question. Et donc, ça va donc à l'encontre des gens ou de cette secte que l'on dit al-Khawarij. Et ça, en fait, c'est une méthodologie utilisée par les gens de l'innovation dans tous les textes. On voit en fait qu'ils viennent avec ce qu'on appelle certains versets, ou qu'ils viennent avec certains hadiths, donc ils viennent avec des preuves. Ils ne viennent pas, comme on dit, ils ne viennent pas les mains vides, ils viennent avec des preuves. Mais ces preuves-là, ils le comprennent suivant leur compréhension qui va être à l'encontre des versets clairs et évidents du Coran, comme on l'a expliqué, comme on a donné l'exemple. Donc en fait, c'est ce qu'a voulu dire le shir, wa al-amalu bil muhkami wa al-taslimu lil mutashabih. Donc en fait, c'est l'explication que l'on donnait pour comprendre en fait l'explication du shir. Et c'est donc en fait ma'na tamassuk. Ça rentre aussi dans le fait de suivre, de s'approcher au livre et de le comprendre comme il se doit, Ensuite, le shir a donc fini en fait d'expliquer. C'est-à-dire de s'arrêter aux limites d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire aux limites qui sont présentes dans ce livre, c'est-à-dire ne pas dépasser les limites d'Allah Azzawajal, les limites qui sont propres au livre d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire ne pas les dépasser, s'arrêter aux limites que l'on trouve dans le Coran. Al-Wuquf 'inda hududihi wa yanfun 'anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin. Donc il refute aussi toute altération qui provient de ceux qui ont été loin dans l'égarement, des personnes qui vont loin dans l'égarement, qui tentent d'altérer le Coran selon leur passion. Le droit que l'on doit avoir par rapport au Coran, c'est de réfuter toutes ces choses-là. Et aussi, Yaqul Shir wa al-Nasihatu lahu bi kulli ma'aniha, de donner conseil pour ce livre. Et ça, en fait, on l'avait expliqué aussi de façon détaillée dans les cours du mardi, lorsqu'on explique le livre Bahjatul Qulub al-Abrar, lorsqu'on s'était arrêté au hadith Ad-Din al-Nasiha, et on avait expliqué de façon détaillée qu'est-ce que voulait dire Al-Nasiha tu li-Kitab Illah, c'est-à-dire le conseil pour ce livre, et tout ce que cela comprend de signification. On nous dit le shir, le conseil pour ce livre, et tout ce que cela comprend de signification. Et ensuite il nous dit appeler à ce livre avec science, et appeler à ce livre avec science. C'est-à-dire on appelle, on fait le prêche par rapport au livre d'Allah Azzawajal avec bishart, c'est-à-dire avec une condition qu'on nous dit le shir, ala basira wal basira, c'est la science, al-ilm huwa al-basira, al-ilm qui est en fait la science. Donc voilà pour ce qui est en fait, pour ce qui est de cette question. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.